Chapitre 10 Ma seconde nuit de noces. J'ai pris grand soin de traverser à pas lents toutes les étapes de cette étrange histoire pour que ceux qui voudront nous juger, après les juges, en sachent aussi long que moi et que les responsabilités soient définitivement établies entre moi et le plus grand voleur du monde. Si l'on ne suit pas à pas, on me comprendra, il sera loisible à toute personne de bonne foi et d'intelligence moyenne de mesurer l'immensité de mon malheur. Mais j'arrive à ma seconde nuit de noces qui va jeter sur les événements de Vasqueuil et sur ceux qui devaient suivre une lumière que d'aucuns qualifieront de surnaturelle et que je suis bien obligé, hélas, après ce que je sais et après ce que mes yeux ont vu, de déclarer la plus naturelle du monde. C'est du moins ce que j'affirme aujourd'hui. Mais alors, je naviguais en pleine inconnue, et l'on verra jusqu'où il me fallut aller pour me rendre à l'évidence. Cordelia désira terminer notre journée, comme nous l'avions fait la veille, par un petit dîner intime dans son boudoir, et certes ce n'est pas moi qui pouvais avoir l'idée de m'y opposer. Tout ce qui me rapprochait de ma femme me donnait l'espoir, sans cesse renouvelé, que j'arriverais à chasser d'une façon définitive les mirages qui me séparaient encore d'elle. J'ai dit « mirage » car j'en étais revenu là le second soir où je m'assis à son côté devant notre table. Et comment eût-il pu en être autrement? Comment ne me serais-je point raccroché à ce mot si l'on considère une seconde l'abîme où ma pauvre pensée désemparée était restée un instant suspendue au cours de cette inquiétante journée. Rappelez-vous, l'attitude de trop inattendue d'une Cordelia reconnaissante et tendre. Mirage, oh, je vous invoquais comme des sauveurs, ô mirage, et toi comme ma moindre ennemie, imagination malade, embrassée, mais poétique de ma bien-aimée, oui, tout cela n'était que de la poésie. Je voulais m'en persuader. Et aussi je ne voulais plus me souvenir que des paroles rassurantes du docteur Turel. Elle est débarrassée de l'idée de l'autre, elle est guérie. Mon Dieu! Quand je me la rappelle telle que je la vis ce deuxième soir autour de notre petit gala intime, me servant comme une enfant gâtée, prévenant mes moindres désirs, tisonnant le feu pour que je ne prisse point froid, affectant des grâces souveraines et dominatrices de garde malade qui nous faisaient pouffer de rire, je ne puis que m'écrier « La voilà telle que Dieu l'a faite, et telle qui me l'a donnée, ma chère Cordelia. » Avant qu'elle eût rencontré le voleur, c'était une petite femme bien nature, d'esprit clair et joyeux, un peu malicieuse et mutine, mise au monde pour le bonheur d'un mari qui eût fait le sien. Et je vous le dis, moi, il ne s'agissait point d'être un aigle pour faire ce bonheur-là. Il s'agissait d'être simple et brave homme, du moins je le crois encore, et j'attends qu'on me démontre le contraire. Je m'entends, il s'agissait aussi de l'aimer. Qui donc l'a jamais aimé plus que moi? Et qui donc en a été aimé plus que moi? Est-ce le voleur? Ah, Seigneur Dieu, dites-moi donc, vous autres qui savez tout, si la colombe qui s'arrête extasiée aime l'épervier qu'elle a rencontré sur le chemin du nid. Mais revenons à notre petit souper. Je ne sais plus à quel sujet Cordelia se moqua gentiment de moi. J'ai toujours eu très bon caractère. Je me suis toujours laissé taquiner sans me fâcher comme un bon gros toutou qui se laisse tirer les oreilles par ceux qu'il aime. Vous voyez, si Cordelia pouvait s'en donner à cœur joie. Mais tout à coup, je me levai avec un bon air féroce, un excellent air féroce, et marchais vers elle en grinçant des dents comme si j'avais juré de la manger vivante. Elle se mit à fuir autour de la table en éclatant de rire. Quant à moi, tout en la poursuivant, je m'efforçais de garder mon sérieux et d'avoir l'air plus terrible que jamais. Elle finit par simuler l'effroi comme je simulais la fureur, et si l'on songe que dans notre course autour des meubles, le léger voile dont ma Cordélia était recouverte se soulevait, s'accrochait et même se déchirait pour me laisser voir quelques beautés nouvelles, on comprendra que ce jeu était devenu le plus joli du monde, si bien que je ne pouvais mieux le terminer qu'en capturant la fugitive et en la serrant dans mes bras. Elle s'était réfugiée dans un coin de la fenêtre. C'était là que j'allais la chercher. Je la saisis, mais tout de suite, je fus frappé de ne plus l'entendre rire. J'abaissai mes yeux sur son visage. Elle n'avait plus sa figure de petite fille. Elle me regardait avec une émotion grave, mais pleine d'amour, je l'affirme. Je sentais sa jeune poitrine battre sur mon cœur. Je la serrai en lui donnant les plus doux noms. « Oh, mon chéri, soupira-t-elle, as-tu vu le parc ? Regarde le parc, comme il est beau !» Et ses yeux ne me regardaient plus. Ils étaient retournés vers le parc, qui, à travers la vitre, nous apparaissait fantomatique sous la lune. La nuit était d'une clarté, d'une transparence de rêve. Les hauts arbres déjà dépouillés se dressaient, tels d'immenses chandeliers d'argent, dont les ombres d'une honnêteté étonnante s'allongeaient comme au pinceau sur les pelouses et sur les allées de lumière. Dans le fond, frissonnait tout le noir mystérieux du parc où je n'avais jamais pénétré et où regardait la lune immobile, éclatante et froide. Je voulus détourner la tête de Cordélia de cette vision funeste, je voulus la ramener aux choses de chez nous. Ses petites mains m'écartèrent, et elle retourna, appuyer son front à la haute fenêtre. On me dira, « Mais pourquoi ne l'avez-vous pas forcée à quitter cette fenêtre et le spectacle dangereux du parc sous la lune ?» Je répondrai que ceux qui ne comprennent point qu'il y a quelquefois plus de force dans le petit doigt d'une petite fille que dans la patte d'un éléphant cessent de me lire. Voilà ce que je répondrai. Les savants ou ceux qui se disent tels n'ont peut-être pas encore donné un nom à cette vérité psychique, mais si l'on prenait la peine d'en faire le tour, d'en soupeser la force par A plus B, et de la décorer de quelques noms en us ou en a, on s'étonnerait peut-être moins de voir l'aura d'une demoiselle à marier obéir à la suggestion d'un pseudo-mage que de constater qu'une masse de chair et d'os de 80 kilos, exactement à cette époque je pesais 79 kilos 400, ne pèse pas plus qu'un soupir de nouveau-né dans le creux de la menotte de la demoiselle en question. Oui, oui. Il est encore là, dans toute sa splendeur, le phénomène de la lévitation. Hélas, après ce que j'ai vu, rien ne pèse que l'esprit. J'en ai peut-être manqué ce soir-là. Il appartient à personne de me le dire. Dans la vie, on fait ce que l'on peut. Et je ne pouvais rien contre la volonté de Cordélia qui était de rester auprès de cette fenêtre. C'est alors qu'elle revécut tout haut sa nuit précédente et que je me pris à souffrir en l'écoutant la plus grande douleur de ma vie. Vous allez comprendre immédiatement pourquoi, enfin du moins je l'espère. Sa petite main sournoise était allée chercher la mienne et m'avait ramené près d'elle dans l'auréole lunaire. Elle avait penché sa tête sur mon épaule et nous devions avoir un peu l'air derrière notre vitre vue d'en bas de ces sortes de couples de saints peints dans les verrières qui décorent et éclairent des absides. Je note cette remarque parce que je la fis alors, ce qui atteste que dans mon esprit, je nous trouvais un peu ridicule, mais ce qui témoigne par cela même que j'étais absolument dénué de résistance. Ah, la pauvre chère Cornélia, elle faisait bien de moi tout ce qu'elle voulait. Allons nous promener dans le parc comme hier, veux-tu, mon chéri ? Allons, Cornélia, allons, suivons cette allée, nous ne bougeons pas. Prenons par les peupliers, ici des phrases très curieuses sur la chanson des peupliers quand le vent souffle dans la ramure. Suivons le bord de l'étang, encore des phrases singulières découpées en strophes sur le cœur flottant du nénuphar et sur les petits berceaux des fées qui se promènent sur la rivière. C'est par ce sentier que nous arriverons à la chambre d'amour. Quelle chambre d'amour ? Ne puis-je m'empêcher de demander. Mais tu sais bien, mon chéri, la chambre que le bon Dieu a faite pour nous, tout en or, tout en or. Et là-dessus, elle me faisait une description complète de la chambre tout en or. Je ne saurais reproduire exactement les termes mêmes dont se servit Cordélia pour me parler de cette chambre. À partir de ce moment, du reste, son langage sembla quitter la terre, et même le terre-à-terre, pour devenir une sorte de musique propre à l'entendement des anges ou encore des poètes qui ne sont jamais embarrassés pour trouver un sens aux mots les moins usités dans la conversation. Quoi qu'il en fût de cette idéale mélodie déversé par les lèvres de ma bien-aimée, mon bon sens naturel ramena de juste proportion le palais de rêve dans lequel l'imagination de Cordélia me promenait depuis quelques instants. Je compris que cette chambre tout en or n'était rien de moins ni rien de plus que quelques petites clairières en forme de berceau, abritées de beaux arbres à demi dépouillés, et qui avaient étendu entre eux sur la terre le riche et épais tapis de leurs feuilles jaunies par l'automne. Ce qui commença à peine cruel, dans l'occurrence, fut que toute cette poésie qui accompagna la promenade dans la chambre en or se débita en anglais. Cordélia et moi, nous savions parfaitement l'anglais, mais nous n'en usions jamais entre nous. Mon douloureux étonnement arriva à son comble quand Cordélia, le plus sérieusement du monde, me demanda de lui réciter, comme je l'avais fait, paraissait-il, la veille, dans la chambre en or, des strophes de Lara et du Corsaire. Je devais ouvrir des yeux stupides, car Cordélia, se faisant plus pressante, me dit « Allons, allons, mon chéri, ne te fais pas prier, dépêche-toi. » C'est si beau, si touchant, si magnifique. Et puis, tu finiras par les adieux de Child Harold à sa patrie, tu sais. Adieu, adieu, my native shore. Adieu, adieu, my little page. Et pendant ce temps, moi, comme hier, je poserai ma tête sur ton sein pour entendre ta voix charmante dans ta poitrine. Ce qu'elle fit du reste aussitôt. Mais je lui relevai la tête entre mes mains tremblantes et la forçai à regarder mon visage, qui sans doute était troublant à voir, car elle s'inquiéta tout de suite. « Mon Dieu, qu'as-tu ? » « Ce que j'ai, Cordélia, mais j'ai cette chose bien simple, que je n'ai jamais su par cœur un vers de Byron, ni d'aucun autre, que je n'ai jamais vu Lara, ni le Corsaire, ni Child Harold. Mais qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Je dis que ce n'est pas moi qui suis allé avec toi dans la chambre en or. Oh, tais-toi, malheureux, tais-toi. Je dis que ce n'est pas sur mon sein que tu as posé ta tête, ô Cordélia. Je m'arrêtai. C'était elle maintenant qui m'effrayait. C'était son aspect qui me remplissait d'épouvante. Ses yeux me fixaient avec une lueur étrange, comme si elle me découvrait tout à coup. Sa bouche râlait une plainte désespérée, et tout à coup laissa échapper le cri d'une âme à l'agonie et qui tente de se rattacher aux choses de la terre. « Oh, sauve-moi, Hector, sauve-moi !» Oui, elle l'a poussé et poussé vers moi, ce cri suprême, qui prouve qu'elle était à moi seul, vous dis-je, qu'elle n'a jamais été qu'à moi. Le voleur aura beau dire, il n'est qu'un voleur. Il a eu beau faire le superbe en cour d'assises, tout le monde a bien compris quand il disait que ce cœur était à lui. Il l'avait cambriolé, lui. Quelle infamie ! À cet appel déchirant de Cordélia, « Sauve-moi, Hector, sauve-moi !» je répondis par un transport de souveraine allégresse. « Oui, certes, mon amour la sauverait de tous ces affreux mirages. » Mes bras puissants n'eurent point de peine cette fois-là à l'arracher à cette maudite fenêtre. Elle ne pesait pas plus dans mes bras qu'une plume. Sa tête aux cheveux dénoués roulait adorablement sur mon épaule. Ce mélange d'effroi et d'amour qui était peint sur ses traits m'enivrait avec une force singulière. Je crus bien être enfin le maître de cette magnifique détresse amoureuse et frissonnante. Et j'appuyai mes lèvres sur les lèvres de Cordélia. Il m'apparut aussitôt que je l'avais tuée et que j'embrassais une morte. Comme la veille, je ne tenais plus dans mes bras qu'une statue. Chapitre 11. La chambre en or. Cette fois, je n'appelais personne. J'étais entrepris par une rage froide, par un désespoir sombre, qui n'avait point besoin de témoins. Je transportais Cordélia sur le lit de notre chambre, et là, je la contemplais en me mordant les poings de rage impuissante. Je me rappelais tout ce que le docteur Turel avait dit de cet état où je voyais ce corps immobile, et je ne doutais plus, après tout ce que j'avais entendu dans la bouche de Cordélia, que l'esprit qui tout à l'heure animait cette matière maintenant inerte ne fût parti pour ailleurs. Pour où ? Était-il difficile de le deviner ? Dans le moment même qu'il m'avait fui, ne se dirigeait-elle pas déjà à tire-d'aile vers cette chambre d'amour que je ne connaissais pas et où il semblait qu'une force indépendante de sa volonté et de la mienne l'attirait avec une puissance que j'avais tenté vainement de briser par un baiser. Bien mieux, ne paraissait-il point qu'il avait suffi que mes lèvres joignissent celles de Cordélia pour que la catastrophe de la veille se renouvelât immédiatement. Je me rappelais alors, dans l'irritation croissante de ma pensée en flamme, les étonnantes paroles du docteur Turel. Surtout, « n'embrassez votre jeune femme que comme un frère. » Mais que voulait dire ceci ? Je tremblais d'horreur et du plus terrible dépit. Fallait-il comprendre que chaque fois que ma bouche s'approcherait de celle de Cordélia, j'aurais à redouter l'affreux phénomène et que ma chère femme ne serait plus qu'un morceau de pierre entre mes bras inassouvis ? À cette idée qu'une si diabolique suggestion fût dans les choses possibles, une fureur gigantesque galopa dans mes veines et je me sentis capable d'un crime contre celui qui était responsable de cette suggestion-là, contre le misérable qui me faisait souffrir 1000 morts, sans compter l'affreux ridicule qui s'attachait à une situation maritale aussi exceptionnelle que la mienne. De cela, je me rendais parfaitement compte aussi, et je ne manquais point de puiser dans ce sentiment une force de vengeance qui finit de me transporter. Tant est que, ne pouvant me résoudre à rester plus longtemps spectateur impassible et inopérant d'une scène qui ne m'offrait que l'image d'un corps sans vie, je courus vers cet endroit, où je savais que, dans le moment même, l'esprit de Cordelia se promenait avec la pensée d'un autre. Et quelques minutes plus tard, je franchissais dans le grand silence de la lune ennemie, et qui voyait peut-être, elle, des choses qui restaient inaperçues de mes yeux de chair, cette ligne des grands arbres qui formait comme un rideau au bord du parc et où je n'avais jamais pénétré. Sitôt franchi ce rideau, je me trouvais dans une futaie si curieusement enchevêtrée que je ne sus d'abord par où la prendre. Et je me rappelais les mots avec lesquels Cordelia en parlait quand elle me la dépeignait. Pleine de malice pour ceux qui ne la connaissaient pas et accueillante seulement aux amis des bois et de la solitude. Je n'étais certes pas un ami de ces bois, car malgré toute la peine que je me donnais, je ne parvenais point à m'en dépêtrer, et je n'avançais guère. La futaie m'accrochait de partout et me retenait de ses mille petits bras ou encore me piquait sournoisement de ses aiguilles. Ah ! La chambre d'amour, qui se trouvait au fond de tout cela, était bien défendue. Cordelia, dans ses propos inconscients, m'en avait du reste suffisamment averti. Tout de même, avant de s'y rendre en esprit, je savais qu'elle y était allée plus d'une fois, en chair et en os, sans quoi j'y m'imaginais comme un sot qu'elle ne me l'aurait pas si bien décrite. Encore une idée sur laquelle je suis bien revenu depuis. Enfin, par où pouvait-on bien passer ? Je me rappelais soudain que la chambre d'amour était bordée par la rivière. Textuellement, Cordelia disait « Dans la chambre d'amour, il y a la grande glace de la rivière, tout encadrée d'or et toute rétamée d'argent par la lune. On y voit des pieds à la tête. Grâce à elle, on n'est jamais seul. Quand on croit être un, on est deux. Quand on croit être deux, on est quatre. Il faut bien faire attention. » Alors, je me dis, en suivant la berge de la rivière, je serais sûr d'arriver à la chambre d'amour, et j'allais rejoindre cette berge par l'allée de peupliers. Je n'eus d'abord qu'à me louer de mon idée, et mon chemin, pendant quelque temps, se trouva tout tracé. Ma marche, cependant, commença de se ralentir quand j'eus laissé derrière moi les peupliers et j'eus bientôt de graves difficultés à surmonter pour suivre la rive. Tout chemin avait disparu et je dus m'aider des branches des saules pour ne point choir dans l'eau. L'Andelle, qui coule à Vasqueuil, est une rivière bien modeste. On ne saurait en user pour le halage et ses bords ne sont fréquentés que par de rares pêcheurs qui viennent surtout goûter là les joies de la solitude entre les roseaux. Telle qu'elle, elle coulait cette nuit-là, avec tant de grâce paisible entre ses rives délicates, mirant si coquettement les petits chignons argentés de ses buissons aquatiques au sein d'une nature sauvageonne, où tout n'était que sourire, grâce et volupté, la lune elle-même me souriait étrangement dans la rivière, que je fus moi-même, en dépit de l'horreur funeste qui m'agitait, frappé par tant de charme, et que je suspendis un instant ma course pour m'écrier du fond du cœur « Ah, je te comprends, ô Cordelia !» Mais qu'est-ce que je comprenais, oui, qu'est-ce que je comprenais ? En vérité, allais-je devenir malade, moi aussi ? Était-ce donc une chose si surprenante, ce parc sous la lune, que mon esprit dut en rester à jamais frappé et que je dusse préférer pour la nuit de mes noces cette retraite sauvage au doux nid moderne qui m'avait coûté bel et bien 500 louis chez W de la place Vendôme. Tout de même, ressaisissons-nous. Enfin, où était-elle, cette chambre d'amour? Tout à coup, je l'aperçus de loin, ou plutôt, je la devinais. C'était bien cette sorte de rotonde qui devait se présenter le jour ou au crépuscule comme un berceau d'or rouge, miracle de l'automne au bord de l'eau murmurante. Aussitôt, je m'avançai avec de grandes précautions. Je me glissai sans bruit entre les herbes et les branches, comme l'homme du Far West sur la piste de guerre. Je ne sentais plus la piqûre des épines. Je retenais ma respiration. Tout cela pour surprendre deux esprits qui s'étaient donné rendez-vous dans une clairière. Je ne sais si vous pouvez vous rendre compte de l'énormité de la chose. Quant à moi, j'accomplissais ces gestes à la fois de la façon la plus inconsciente et la plus naturelle. Comprenez par là que je ne raisonnais en rien, mais qu'obéissant à ce mouvement spontané qui m'avait jeté à la poursuite de l'esprit fugitif de Cordélia, et subissant en même temps l'influence des explications bizarres, quoique scientifiques, du docteur Turel, j'agissais en tout et pour tout comme le plus ordinaire des maris trompés, et que je m'attachais à ne commettre aucune imprudence qui pût avertir les coupables et m'empêcher d'atteindre la preuve de mon malheur. Sous quelle forme cette preuve allait-elle m'apparaître? Certes, je n'en savais rien, et je me le demandais même pas, mais je doutais si peu que j'allais être renseigné là-dessus par un de ces phénomènes psychiques dont l'illustre maître m'avait bourré la cervelle, que je fus parfaitement désemparé lorsque je pénétrai enfin sournoisement et à quatre pattes dans la chambre d'amour, de m'apercevoir que le vide, c'est-à-dire une atmosphère transparente et nette comme le cristal, traversé de rayons de lune éclatants qui avaient fait de la chambre tout en or, une chambre tout en argent. Elle n'en était pas moins belle, mais je vous prie de croire que le paysage et la grâce de ce berceau champêtre étaient dans cette minute la moindre de mes préoccupations, le vide et le silence. Je me relevai et restai quelques instants haletant devant ce néant. Le vide et le silence. Et ils étaient peut-être là. Et moi, avec les yeux de chair, je ne pouvais les voir. Oh, c'était effrayant. Je regardai stupidement les choses. J'en fis le tour, glissant dans l'ombre des arbres comme une ombre moi-même, à la recherche de deux ombres. Tout à coup, je me mis à rire. Je me trouvais monstrueusement bête. Mais alors, si je me trouvais si parfaitement insensé, pourquoi mon rire était-il si incomplet? Pourquoi s'était-il arrêté tout à coup au fond de ma gorge sèche, dans le moment qu'un peu de lumière et un peu d'ombre avaient tremblé au-dessus d'un vieux banc de pierre moussue au fond du berceau? Pourquoi m'avançais-je vers ce banc, penché et fermant les poings? Qu'est-ce que je voulais faire avec mes poings, mes gros poings de boxeur poids lourd? Battre la lumière? Ficher une pile à un rayon de lune? Misère de ma vie et de la vie universelle, pourquoi y a-t-il des gens qui voient et d'autres qui ne voient pas? Il me semble que si je voyais, j'aurais moins peur, car maintenant j'ai peur. De quoi? Eh bien, de ce que je vais voir, car si je ne vois pas encore, j'entends.